Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer.
Bonjour, et nous allons donc entamer notre deuxième séance du cours qui est consacrée au livre de Josué. Donc vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé de manière plus générale de la guerre dans le Proche-Orient ancien et surtout dans la Bible. Et je voulais vous montrer qu'il n'y a pas seulement des discours de guerre, il y a quelques discours de paix, mais qui n'ont pas toujours la vie très longue. Donc je vous ai rappelé que si vous prenez les traditions des patriarches et des matriarches, il n'y a pas vraiment de guerre, il y a un chapitre qui sort un peu du lot, c'est le chapitre 14 du livre de la Genèse, où Abraham fait une sorte presque de guerre mondiale contre tous les rois de la Mésopotamie, imaginaire et imaginable. Mais autrement, quand il s'agit du pays, le pays n'est jamais acquis de manière militaire ou guerrière, c'est simplement donné par Dieu. Et puis il dit, Abraham reçoit le pays, et les Philistins, pas de Philistins, les Cananéens étaient dans le pays. Les Philistins y sont aussi, et avec eux on cohabite également, on peut même séjourner chez eux. Donc ça se présente de manière très différente, et je vous ai rappelé que si vous lisez les histoires d'Abraham, d'Isaac notamment, vous vous rendez compte que finalement toutes les populations qui se trouvent dans le Levant Sud sont en relation de parenté. Donc Ismaël est un des fils d'Abraham, les Moabites, les Ammonites sont liés à Abraham via Lot, qui est soit son frère, soit son neveu. Et donc c'est une grande famille, à l'exception des Philistins, je vous en parlerai tout à l'heure encore des Philistins, mais tout le monde cohabite, comme on cohabite dans une famille, parfois c'est pas toujours facile, mais on s'arrange quand même toujours. Alors c'est très différent ce qu'on a évidemment dans d'autres livres, et j'y reviendrai. Alors, après les catastrophes dont je vous ai parlé la semaine dernière, la disparition du royaume du Nord en 722, la destruction de Jérusalem en 586, toujours avant notre ère évidemment, et donc l'exil babylonien, se développe dans certains textes un discours sur la fin de la guerre. Donc ça, c'est un texte très connu qui est transmis deux fois. C'est-à-dire c'est le même texte, apparemment ça circulait de manière indépendante, on l'a intégré à la fois dans le livre de Michée, mais aussi dans le livre d'Ésaïe. Et donc l'idée, c'est qu'il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de Yahvé, donc Sion, Jérusalem, sera établie au sommet des montagnes et elle dominera les collines, donc il y a une sorte de supériorité de Jérusalem. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les nations, des peuples vont affluer, des nations nombreuses se mettront en marche et diront « Venons, venez, montons à la montagne de Yahvé, à la maison du Dieu de Jacob, ils nous montreront ses chemins et nous marcherons sur ses routes. » Oui, c'est de Sion qui viendra l'instruction de Jérusalem, la parole de Yahvé. Et alors, au centre de tout cet oracle, c'est Yahvé qui sera juge entre les peuples nombreux, l'arbitre des nations puissantes, même au loin. Et ensuite, on revient sur les nations, martelant leurs épées, ils en feront des socs, de leurs lances, ils en feront des serpes. On ne brandira plus l'épée, nation contre nation, on n'apprendra plus la guerre, ils demeureront chacun sous sa vigne et son figuier, et personne pour la troubler, car la bouche de Yahvé Tsebaot a parlé. Alors, je ne sais pas si c'est aussi dans la Bible Trump, dont je vous ai déjà parlé, mais voilà, donc là, il y a une vision un peu pacifique, mais qui est liée à l'idée que toutes les nations, en fait, viendront sur Jérusalem. Et donc, le présent, dans le présent, on se rend compte, ce n'est pas encore comme ça, puisque tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Nous, nous marcherons au nom de Yahvé, notre Dieu, à tout jamais. Donc, ce n'est pas encore, c'est dans l'avenir. Très bien. Mais il y a dans la Bible, comme souvent, un texte qui dit juste le contraire, qui reprend en fait le texte que je viens vous lire. C'est dans le livre de Joël. Là aussi, il y a l'idée que Yahvé va rassembler les nations Donc c'est Yahvé qui parle par la bouche du prophète. Je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Donc c'est un nom d'un roi, mais c'est aussi un jeu de mots, puisque Josaphat veut dire Yahvé juge, donc il y a également le jugement. Et donc là, du coup, bah, si vous vous souvenez de ce que je viens de vous lire, donc de leurs épées, il fera des socs, et de la lance, il en fera des serpes. Maintenant, c'est quoi ? De vos socs, forgez des épées. Dès vos serpes, forgez des lances. Voilà. Donc, on peut dire on revient en arrière, mais on va en effet préparer une sorte de guerre finale, une guerre eschatologique à la fin du temps, dans la vallée du jugement, qui devient ensuite Armageddon, en fait la vallée de Megiddo. Et donc, ça prépare en effet quelque chose qui va être très populaire jusqu'à aujourd'hui dans certains discours politiques, cette idée d'une guerre eschatologique, d'une guerre finale des forces du bien contre les forces du mal. Et ça, ça commence avec ce texte de Joël, et puis c'est poursuivi dans des grandes visions qu'on trouve dans Ézéchiel. C'est un des derniers textes du livre d'Ézéchiel, sans doute du 3e, 2e siècle avant l'ère chrétienne. Gog et Magog, ou Gog de Magog, qu'on a identifié avec toutes sortes de forces du mal, récemment plutôt la Russie ou l'Iran. Donc l'idée que une fois que Gog et Magog, ou Gog de Magog, ont été vaincus, va advenir un temps de paix. Et on le retrouve évidemment aussi à Qumran. À Qumran, il y a un texte qu'on appelle le rouleau de la guerre, où en fait on a cette idée que les fils de lumière, qui sont donc la communauté de Qumran, vont être appelés à faire la guerre contre les fils des ténèbres. Et c'est à la fin, en fait, qu'on va arriver à une nouvelle création. Même sujet dans le Nouveau Testament, le dernier texte du Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean, met en place, en effet, le combat des armées célestes contre Satan et son armée, avec également l'idée qu'une fois Satan sera dompté, va advenir la nouvelle création, la nouvelle Jérusalem. Donc c'est un gros classique qui va se poursuivre tout au long. Donc, pour résumer cette première partie, la guerre est omniprésente dans la Bible hébraïque, nous l'avons vu la semaine dernière, comme d'ailleurs dans le Proche-Orient, on a des mêmes réflexions. Donc, vous vous souvenez des dieux nationaux, quand on perd une guerre, c'est que le dieu national s'est mis en colère, et ainsi de suite. Mais on a aussi les textes que je viens de vous montrer, une réflexion sur la possibilité de la disparition ou une sorte d'escatologisation de la guerre, où on dit cette guerre-là, elle est encore nécessaire, et après, adviendra un temps meilleur. Mais ça fait plus que 2000 ans qu'on nous raconte ça, et ça n'a pas beaucoup changé. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au livre de Josué, et aussi à la question, est-ce que cette conquête telle qu'elle est décrite dans le livre s'est vraiment passée comme ça ? Je peux tout de suite vous dire non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc d'abord, peut-être quelques mises en garde, ou disons une petite histoire de la réception du livre de Josué, qui en effet peut être qualifié d'un livre dangereux, puisque c'est un livre en effet où les Israélites, en effet encouragés ou même mis en route par leur Dieu, semblent faire preuve quand même d'un militarisme et d'une cruauté assez hors du commun. On va apprendre les massacres des villes entières, des exterminations des populations locales, et évidemment, et ce n'est pas contre toi, Lionel, si ça avait été juste un texte assyrien ou mésopotamien, on aurait dit « Oh, bon, c'est comme ça à l'époque, puis voilà ». Mais comme le livre est devenu un livre biblique, intégré dans des Bibles juives et chrétiennes, évidemment, ce livre joue un rôle différent, puisque du coup, il y a des milieux qui pensent que c'est un livre inspiré, qui nous donne en fait des règles pour gérer des conflits ou des territoires que nous voudrons bien avoir. Donc, du coup, c'est considéré comme ayant actualité pour les croyants qui essayent, en effet, soit de faire des lectures apologétiques ou de dire, comme on peut l'entendre actuellement, bah, les Palestiniens, ce n'est pas très différent que des Cananéens à l'époque. C'est des discours que vous pouvez trouver facilement sur Internet, je ne vais pas vous les citer en détail. Donc, c'est un livre qui peut être dangereux. Et l'abbé Pierre avait, en 1993, dit que c'est le premier génocide de l'histoire. Donc, ça s'est rapporté par un article dans Libération. Lui avait évidemment un discours dans lequel il contestait même la légitimité de l'État d'Israël. Donc, je ne vais pas aller dans le détail, mais il avait sorti cette idée. Mais qu'est-ce que vous nous embêtez avec votre livre de Josué ? C'est un livre de génocide qu'il faut faire disparaître de la Bible. Alors, cette vision un peu antisémite a des racines, hein, a des racines chrétiennes profondes. Ça commence en effet déjà chez Marcion. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui est Marcion, un homme d'affaires assez aisé, qui voulait en fait opposer le Dieu de l'Ancien Testament au Dieu du Nouveau Testament. Et même dans le Nouveau Testament, il a fait disparaître des textes qui ne lui plaisaient pas, donc il ne gardait pas grand-chose. Mais il avait donc écrit des antithèses où il opposait justement des figures de l'Ancien à des figures du Nouveau Testament. Et dans ces antithèses, on peut lire « Josué a conquis la terre avec violence et cruauté. Mais le Christ interdit toute violence et prêche la miséricorde et la paix. » C'est facile, puis après il cite les béatitudes, voilà, heureux, les doux, parce qu'ils vont recevoir la terre en héritage. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais voilà, c'est un peu comme Marcion a argumenté. Le père d'Église Origène a une position un peu plus ambiguë, parce que d'un côté il va dire, je vous le lis tout de suite, « Les Juifs se montrent cruels, assoiffés de sang humain. » Il pense que c'est une marque de sainteté d'avoir frappé les habitants de Haï de manière à ne laisser aucun fuyard. Donc d'abord, il fait une lecture très négative. Après, il dit, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut lire le livre. Après, il va faire une sorte de lecture un peu allégorique, puisqu'il continue, or en fait, des mystères sont cachés dans ce texte. Voilà ce qu'il veut nous dire. Nous ne devons laisser vivre absolument aucun des démons dans les chaos et la demeure. Leur effort, c'est de faire pécher les hommes. Il faut lire les combats de Josué comme les combats menés contre le péché. Donc les populations qu'il faut éliminer, en fait, c'est nos propres penchants négatifs qu'il faut éliminer. C'est sympathique, mais ça explique peut-être pas tout à fait le livre de Josué. Alors, on a utilisé le livre de Josué à plusieurs moments dans l'histoire. D'abord, au moment des croisades, lorsque le pape Urbain appelle aux croisades, il se réfère directement à Josué pour légitimer la conquête de Jérusalem. Et selon ce livre de Prower, Histoire du royaume latin de Jérusalem, on apprend qu'en 1099, lors de la prise de Jérusalem, une procession, pieds nus, conduite par le clergé, fit le tour des murs de Jérusalem. Il n'est pas douteux que les croisés se regardèrent comme les enfants d'Israël autour du mur de Jéricho. Peut-être espéraient-ils qu'un miracle se produirait et que le muraille s'écroulait. Ce qui, évidemment, ne s'est pas passé, mais Jérusalem a été quand même conquis. Mais voyez de nouveau une allusion au livre de Josué. Et il y a tout un dossier qui est très long et très, très bien documenté, c'est la colonisation de l'Amérique du Nord, hein, où, en effet, les colons se sont identifiés au nouveau peuple élu, au nouvel Israël, ça reste jusqu'à aujourd'hui dans certains esprits. Ils avaient fui le pouvoir d'un roi tyrannique, ils avaient traversé la mer. Ils étaient arrivés dans une terre presque vierge, mais il y a quand même eu des autochtones dans cette terre. Et donc, ces populations autochtones furent assimilées aux Cananéens idolâtres. Alors, quand vous lisez le livre de Josué, il n'est jamais question de Dieu, des Cananéens, ça ne les intéresse pas tellement. Mais là, après, il y a une lecture que voilà pourquoi est-ce qu'ils ont dû être exterminés, parce qu'ils étaient idolâtres. Et donc, il fallait chasser, voire exterminer, Je vous renvoie à cet article de Mme Marianne Strass qui documente cela très bien. Alors évidemment, aujourd'hui, ça pose toutes sortes de problèmes. Prieur, dans un livre qui s'appelle « La Bible et le colonialisme », dit « Les personnages évidents auxquels les Amérindiens aujourd'hui pourraient s'identifier, c'est en effet les Cananéens, les gens qui vivaient déjà dans la terre promise. » Donc l'idée, c'est qu'en effet, il ne faut pas s'identifier aux agresseurs, mais plutôt à ceux qui sont agressés. Ce qui dit également le rabbin libéral Shalom Rav, si nous voulons vraiment entendre le Dieu de la libération nous parler à travers la tradition biblique, nous devons nous préparer tout simplement à lire l'histoire de l'Exode avec les yeux des Israélites et l'histoire de l'Aïsodus, c'est-à-dire de la conquête, de l'entrée dans le pays, à travers les yeux des Cananéens. Donc l'idée, c'est en effet de prendre un autre point de vue, ce qui n'est pas toujours fait par tout le monde. Je voulais aussi vous montrer l'exemple, peut-être un peu moins connu, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, où il y a les Afrikaners qui se sont appelés eux-mêmes les Voortrekkers, ceux qui vont en avant, c'est-à-dire des pionniers néerlandais qui sont partis dans les années 30 du 19e siècle de la colonie du Cap, qui était contrôlée du coup par les Britanniques qui avaient, eux, interdit l'esclavage, ce que les Boers ne voulaient pas. Et ils sont donc partis pour s'installer à l'intérieur des terres d'Afrique du Sud. Et ils ont évidemment là aussi rencontré des populations autochtones qu'ils ont décimé de manière assez radicale. Ils ont construit au début du XXe siècle ce monument qui est toujours là, à Pretoria, en Afrique du Sud, que, après la fin de l'apartheid, certains voulaient détruire, mais Mandela a dit il ne faut pas le détruire, il faut le laisser, ça fait partie de notre histoire. Donc vous avez, jusqu'à aujourd'hui, si vous allez à Pretoria, vous pouvez visiter ce monument qui, à l'intérieur, ressemble à un palais assyrien. Parce qu'il y a tout au long de ce monument à l'intérieur, vous avez des reliefs où on raconte en fait le combat des Voortrekkers contre les populations autochtones. Parfois, il y a des contrats, mais parfois, ils sont justement là, massacrés, comme ici ou comme sur cette image-là, où on voit en effet que, pareil, on a identifié les populations autochtones avec les Cananéens, et ça a donné lieu, évidemment, plus tard, au système de l'apartheid, qui était légitimé d'une certaine manière aussi avec le livre de Josué. Et ce qui est fascinant vraiment, c'est quand vous regardez les reliefs, quand j'ai vu ça la première fois, je me dis, ben, c'est comme chez les Assyriens. Donc on raconte une histoire, mais sans doute aussi pour les populations autochtones qu'on amenait aussi dans ce monument, qui ne pouvaient pas forcément lire, hein, on leur a montré en fait l'histoire dans la perspective des vainqueurs. Le livre de Josué a également joué un rôle important dans la création de l'État d'Israël. Le premier Premier ministre David Ben-Gurion avait une fascination pour les livres de Josué. Il organisait, et chaque Premier ministre israélien le fait jusqu'à aujourd'hui, ils font des groupes d'études bibliques, et chaque Premier ministre choisit des livres ou des textes qui l'intéressent. Ils invitent des spécialistes de la Bible pour leur expliquer les choses. Et en fait, il a utilisé le livre de Josué comme la base d'un mythe unificateur de l'identité nationale. Donc l'idée qui va être développé par Cattell Berthelot, c'est qu'il aurait été le premier à rapprocher la conquête du pays par Josué et la guerre d'indépendance de 1948. Il avait un grand archéologue qui était également chef d'état-major adjoint lors de la guerre de 1948, représentant de l'archéologie biblique, qui fouillait justement un certain nombre de lieux, notamment Hatzor, pour, d'une certaine manière, confirmer la conquête sous Josué. Il a même écrit un livre sur l'art de faire la guerre à l'époque biblique à la lumière de l'archéologie, en se basant évidemment aussi sur des histoires qui sont racontées dans le livre de Josué. Et je donne un dernier exemple comment on peut récupérer le livre de Josué. Je ne sais pas si vous connaissez le Jericho Marches. Ça, c'est des milieux évangéliques américains qui, notamment suite à la non-élection de Trump en 2020, avaient organisé ce qu'ils appelaient les marches de Jéricho. Donc, c'est-à-dire dans chaque État, ils ont tourné autour du Capitole de leur État plusieurs fois pour le faire s'effondrer avec l'idée que voilà, ça ramènera Trump au pouvoir, ce qui a marché malheureusement d'une certaine manière, pas directement. Mais enfin, bon, voyez comment on peut récupérer le livre de Josué jusqu'à aujourd'hui, et puis il y a bien d'autres exemples qu'on n'a pas le temps maintenant de discuter tous en détail. Mais regardons peut-être d'abord qu'est-ce qu'on trouve dans le livre de Josué. Et puis ça va nous occuper dans les semaines à venir. Donc je vais simplement d'abord vous donner une petite idée sur le contenu de ce livre. D'ailleurs, ce sera bien aussi pour, si vous suivez ce cours, d'ouvrir une fois la Bible et lire le livre, parce qu'il y a des choses qui sont horribles, il y a d'autres choses qui sont plus étonnantes. Donc c'est un livre qui a quand même quelques surprises. Donc ça commence en fait par des discours, c'est un peu un cadre autour du livre. Ça commence avec un grand discours de Yahvé à Josué, où Josué est installé un peu chef de guerre. Ça, c'est un texte que nous allons voir la semaine prochaine. Et puis à la fin, c'est déjà bizarre parce qu'il y a deux discours d'adieu de Josué. Donc, au chapitre 23, il dit « Bon, je vais mourir et puis je laisse mon testament. » Et bon, on se dit « Bah, très bien. » Et après, il recommence. Il fait un deuxième discours. Donc, il y a deux grands discours et finalement, la mort de Josué. Et à l'intérieur, il y a deux grandes parties. Les récits de conquête proprement dites. Et la deuxième partie, c'est plutôt des listes des frontières et du partage du pays. Si on regarde un peu plus en détail, donc après les discours de Yahvé à Josué et de Josué au peuple, il y a déjà une première chose qui est étonnante, on va le voir aussi plus en détail. Josué dit, soyez prêts, en 3 jours, on va traverser le Jourdain. Déjà, c'est bizarre. Parce que le Jourdain n'a jamais vraiment été la frontière officielle d'Israël de Juda. Parce qu'il y a toujours eu des gens en Israël de l'autre côté. Mais tout d'un coup, le Jourdain doit être traversé pour qu'on entre dans la terre promise. Mystère. Ensuite, il dit donc, en 3 jours, on va le faire. Mais après, au chapitre 2, on apprend qu'il envoie des espions. Pourquoi faire, on ne sait pas très bien. Et ça ne marche pas avec les 3 jours, parce que les espions, on va le voir aussi la semaine prochaine, ils vont aller chez Rahab, la prostituée, et elle va les sauver des émissaires du roi de Jéricho, et va lui dire, restez 3 jours dans les montagnes jusqu'à ce que les autres ne vous trouvent pas. Donc ça rajoute en fait 3 jours. Donc la chronologie est déjà un peu perturbée. La chronologie est perturbée, et puis on se pose la question pourquoi cet épisode d'explorer le pays, et vous allez voir, ils n'explorent rien du tout. Parce qu'ils restent chez Madame Rahab, et après ils vont dans les montagnes et ils reviennent, et puis ils disent en fait à Josué ce que Rahab leur a dit. Mais ça, on le voit en détail la semaine prochaine. Après, il y a la fameuse traversée du Jourdain qui est relatée de manière très, très explicite. On va retrouver l'arche, les prêtres, les lévites. C'est toute une procession. On peut traverser ce fleuve ou rivière. Et il n'y a toujours pas de conquête. Donc, pour le moment, on est dans les prolégomènes. Et après, on arrive dans le pays, mais on fait d'abord, il faut circoncire les Israélites qui n'étaient pas circoncis, il faut célébrer la Pâque, et donc on n'a toujours pas fait la conquête. Donc, et Josué va avoir une apparition d'un chef de l'armée céleste qui le met en route pour les récits de conquête. Premier récit de conquête, Jéricho. Mais en Jéricho, les Israélites ne font pas grand-chose parce que les murs tombent tout seuls. Donc là, il n'y a pas de conquête. Par contre, il y a le Kherem, l'interdit, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et ensuite, vous avez la conquête de Haï de manière assez explicite, mais qui commence d'abord avec des échecs. On va expliquer les échecs parce qu'il y a un clan qui à subtiliser le butin de Jéricho, ce qu'il ne faut pas faire, c'est pour cela que ça n'a pas marché. Après, ça va marcher. Et on va aussi raconter la conquête d'Haï. D'Haï qui veut dire, en effet, monceau de ruines. Donc, en fait, c'est une ville qui n'existe déjà pas au moment de la conquête. Et puis, on va ensuite avoir, après une cérémonie à Sichem, une conquête qui est plutôt une soumission, où en fait la population de Gabaon va venir se soumettre en fait à Josué et va être intégrée dans Israël. Donc c'est des conquêtes assez différentes si vous comparez les trois récits. Et tout ça en fait se déroule dans un territoire assez limité, hein, et c'est seulement au chapitre 10 à 12 où on va élargir la conquête dans le sud, mais pas tellement raconter les détails, on va seulement énumérer les lieux où cette conquête va se dérouler. Après, dans le nord, et on a une sorte de conclusion, ainsi Josué prit tout le pays. Certaines pensent même, on y reviendra, que c'était peut-être la conclusion, à un moment donné, du rouleau de Josué. Et puis, dans la deuxième partie, on va avoir les 12 tribus. Il y a des tribus, Ruben, Gad et la moitié de Manassé, qui sont en effet non pas du côté ouest du Jourdain, mais de l'autre côté, mais qui doivent venir quand même traverser avec les autres. Et puis ensuite, ils reçoivent quand même leur héritage de l'autre côté, donc en Transjordanie. Après, donc, il y a la figure de Caleb qui va être intégrée dans Judée, donc je ne vais pas vous lire toutes les tribus. Donc vous avez les 12 tribus, et vous voyez que parmi ces tribus, Lévi n'y est pas. Hein ? Lévi, en fait, est traité de manière séparée, puisqu'il est considéré dans cette liste-là comme une tribu donc sacerdotale qui n'a pas de propriété, et on va créer des villes lévitiques qui sont spécifiques au chapitre 21. Et puis on va reparler des tribus qui sont de l'autre côté donc du Jourdain, qui vont faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, construire un hôtel, et on va discuter est-ce qu'ils ont le droit ou non. Vous verrez comment ça se termine. Et puis, comme je vous ai dit, à la fin, vous avez ces deux discours d'adieu de Josué avec une notice sur sa mort. Alors, si on regarde le texte du livre de Josué, si vous le lisez dans une Bible française, vous ne vous rendez pas compte, souvent pas, qu'en fait, on a des versions assez différentes du livre de Josué. Si vous prenez les textes hébreux, massoritiques, le texte standard, il est souvent assez différent du texte qui nous est parvenu via les traductions grecques, ce qu'on appelle la Septante. Hein ? La Septante qui est souvent plus court, parfois de manière assez importante, hein, et qui apparemment garde, on va le voir au fur et à mesure, garde une version du texte de Josué plus ancien que celle que vous avez dans vos Bibles françaises, qui se basent toutes sur le texte hébreu. Donc il faudrait presque faire deux versions du livre de Josué. Vous pouvez le trouver, si ça vous intéresse, dans une traduction qui s'appelle la Bible d'Alexandrie, où vous avez en fait une traduction en français de la Septante, ce qui vous permet en effet de comparer les deux versions. Pour certains chapitres, c'est assez différent, en effet, aussi pour l'histoire des murailles de Jéricho. Donc, on ne peut pas dire de manière systématique que chaque fois il y a une différence, c'est la septante qu'il faut privilégier, mais très souvent, chez l'impression, c'est quand même souvent des glosses, des précisions, etc., qui font penser quand même que le texte de la septante garde un texte hébreu plus ancien. À Qumran, on a plusieurs fragments de Josué. Certains appuient le texte massorétique, d'autres le texte de la Septante. Donc là aussi, ça ne nous aide pas beaucoup, donc il faut aller au fur et à mesure. Mais on voit aussi la popularité de ce livre de Josué, puisque nous avons des fragments de cinq ensembles qu'on appelle souvent des apocryphes de Josué. C'est-à-dire, on re-raconte l'histoire de Josué, ce n'est pas le texte biblique, hein, c'est une sorte de midrash déjà autour de Josué, avec des prières, des exhortations qui sont souvent reprises du Deutéronome, mais pas exclusivement, et qui, comme je vous dis, montrent l'importance de Josué à ce moment-là. Peut-être déjà parce que c'était lu, peut-être déjà dans cette idée un peu eschatologique d'une guerre à venir. Chez les Samaritains, vous savez, les Samaritains ont gardé que la Torah, que le Pentateuque, mais la figure de Josué était assez importante. Il y a aussi une histoire samaritaine de Josué, dont on discute beaucoup de la date, puisque le manuscrit est très récent, mais il est possible quand même que les traditions sont plus anciennes. Alors, qu'en est-il de la conquête ? Traditionnellement, on a compris que Josué, dans le Talmud, vous trouvez ça, Josué est l'auteur de son livre. Donc ça veut dire qu'il a écrit ce qu'il a fait. Bon, il parle de lui à la troisième personne, mais ça, c'est pas grave. Donc il raconte sa vie. Et c'est seulement les derniers chapitres, disons les derniers passages qui relatent sa mort, que le Talmud dit, ben, c'est pas Josué qui a pu écrire sa propre mort. Donc c'est les prêtres Éléazar et Pinchas qui sont mentionnés justement à la fin du livre de Josué, qui auraient en effet complété le livre. Donc là, il n'y a aucun problème, ben, Josué raconte comment les choses se sont passées. Après, avec le début de l'exégèse historico-critique, d'origine protestante souvent, on a quand même, on a dit, il y a des éléments miraculeux, les murailles de Jéricho, Josué qui arrête le soleil et la lune, donc on va aussi revenir sur cette histoire. Mais on a quand même pensé, notamment Albright, William Fox Albright, que l'installation des Hébreux dans leur pays s'est faite par des guerres de conquête. Donc on a dit, il y a des moments mythologiques, mais finalement, Israël a pris son pays par une conquête. Donc on a gardé cette idée que c'est par cette manière-là que les Hébreux sont entrés dans le pays. Il y a eu une variante un peu révolutionnaire de ça par Norman Gottwald, The Tribes of Yahweh, A Sociology of the Religion of Liberated Israel. Donc une sociologie de l'Israël libéré. Donc il a dit, ils ont fait des guerres, mais c'était des guerres de libération. Donc voilà, c'est un peu dans l'esprit de post-68. Donc, des guerres, mais des guerres nécessaires contre des oppresseurs. Je vous ai parlé déjà de Yigal Yadin, qui avait en effet fouillé à Hatzor, où il y a en effet des couches de destruction, c'est vrai, et qu'il a dit, ça prouve en effet que la ville a été détruite par les Hébreux. Alors, la théorie opposée à l'époque, c'était celle de Albrecht Alt et de son collègue et néanmoins ennemi ou ami Yohanan Aharoni, donc de Yadin, qui lui en effet avait dit non, c'est une infiltration sur un grand laps de temps. Donc, ce qui est intéressant, mais ça, je le dis quand même, Yadin a fondé un peu l'archéologie à l'université de Jérusalem et Aharoni a fondé l'archéologie à l'université de Tel Aviv. Et ces deux visions assez différentes qui se sont perpétuées jusqu'à aujourd'hui, je ne vous donne pas les détails. Alors, cette vision un peu, l'archéologie montre que elle était déjà un peu mise à mal par une archéologue britannique, Kathleen Kenyon. Kathleen Kenyon, qui dans les années 50 et 60 a fouillé Jéricho. Jéricho, qui est une des villes les plus anciennes de l'humanité, ça va jusqu'au 7e millénaire. Mais en fait, elle avait dit, il n'y a pas de mur de Jéricho au 13e siècle. Parce qu'il y a eu une phase de destruction, mais qui est bien antérieure, qui date, selon elle, de 1600 à 1550 avant l'ère chrétienne. Maintenant, on dit même 1700. Donc, du coup, elle avait déjà montré, en fait, que ça ne correspond pas à une certaine chronologie que certains archéologues biblistes voulaient faire admettre par rapport à Jéricho. Donc, au moment de la conquête, Jéricho n'avait pas de mur. Donc, alors, parfois, on a dit, peut-être, c'est tellement effondré qu'on n'a rien trouvé du tout. Mais ce sera un cas assez unique en archéologie, parce que s'il y a des destructions, on trouve quand même quelques débris. Et c'est également le cas de la ville de Haï, donc que vous avez juste là, vous avez Jéricho, Haï juste à côté. Haï qui veut dire en effet la ruine, hein, et qui en fait, avant, disons vers 1200, où on date 1300-1200, on datait traditionnellement la conquête, n'avait aucune fortification. Donc c'était un peu le début de la fin. Donc on s'est rendu compte que les grandes villes dont on parle au moment de la conquête, il n'y avait pas de traces de destruction au moment où on voulait. Et donc du coup, ça a été synthétisé surtout par Israël Finkelstein, mais il n'est pas le seul. Vous connaissez sans doute son livre « La Bible dévoilée » où il fait un peu un résumé de ce qu'on peut dire au niveau de l'archéologie. Alors, il commence en disant qu'il n'y a aucun indice archéologique qui atteste l'invasion d'une peuplade en Palestine aux alentours des 13e, 12e siècles, à l'exception des Philistins, sur lequel je vais revenir. Donc, il dit aussi qu'il y a une continuation de la culture matérielle, de la manière de faire la poterie, des ustensiles de tous les jours. Quand il y a une nouvelle population qui arrive, elle amène sa manière de faire. Et là, il n'y a pas de rupture, donc c'est plutôt une continuité. Et donc, il rappelle que le début de l'histoire d'Israël au XIIIe siècle, en fait, correspond aussi à une transition importante, qui est certainement aussi liée un peu à un changement, transition de l'âge de bronze vers l'âge de fer, bronze récent vers le fer ancien. Donc, ce qu'il faut rappeler à ce moment-là aussi, c'est que vers le milieu du deuxième millénaire, le Levant est fait et sous domination égyptienne. Vous vous souvenez peut-être, on a évoqué cela à plusieurs reprises. Et Pharaon, en fait, les Égyptiens sont présents par des garnisons, mais c'est surtout des cités-États, des petites unités avec des roitelets qui dépendent en fait du Pharaon. Et ça, c'est peut-être lié à toute l'histoire de l'Exode. Et en dehors de ces cités-États, dont on a toute une correspondance avec le pharaon, donc ils écrivent en acadien, donc ce qui est intéressant, l'acadien en fait est utilisé pour la correspondance avec le pharaon, ou les pharaons, où ils se plaignent souvent des dénommés apirous, des groupes qui vivent en marge un peu des systèmes politiques et qu'on a souvent identifiés aux Hébreux. Donc, je sais que mon collègue émérite Jean-Marie Durand est totalement opposé à cette idée, mais je pense qu'il y a quand même quelques indices qu'on peut faire un rapprochement. Donc, il y a les apirous, il y a aussi des chassous qui sont des groupes nomades, dont un des groupes, en fait, est caractérisé en lien avec des chassous de Séir, de Édom, des chassous Yahwa, qui pourrait être la première attestation, mais ce n'est pas le sujet de ce cours, la première attestation du nom de Yahvé, hein, signifiant peut-être une montagne divinisée. Alors, comme je vous disais, à la fin du XIIIe siècle, nous avons un certain nombre de bouleversements sociaux, politiques, peut-être aussi climatiques, durant lesquels les cités-États s'effondrent, l'Égypte se retire aussi du Levant, et ça correspond aussi à l'arrivée, ce qu'on appelle les peuples de la mer, hein, qui venant de l'Égée et de l'Anatolie, ce qu'on appelle les Philistins, donc qui s'installent notamment à Gaza, Ashdod, Ashkelon, Ekron. et qui contrôle en fait la côte. Donc, c'est pas un événement précis, ça c'est aussi quelque chose qui dure des décennies, si c'est pas un centenaire. Et souvent on pense aussi que le déplacement de ces populations qu'on va ensuite regrouper sous le nom de Philistins, mais dont certaines viennent peut-être de l'Anatolie, d'autres des îles méditerranéennes, est sans doute aussi marqué par un climat méditerranéen défavorable, des années de sécheresse, des phénomènes de désertification. Donc aujourd'hui, l'archéologie aussi intéressée par ces changements climatiques qui peuvent aussi parfois expliquer un certain nombre de changements. Donc, bien que les Philistins ont une culture matérielle différente des autres habitants du pays, ils vont très vite s'assimiler, vont reprendre la langue, etc. Mais la Bible garde beaucoup de souvenirs de ces Philistins, donc, qui est plutôt un nom générique pour des populations indo-européennes qui vont, en effet, dans un processus assez long, s'installer sur la côte du Levant, mais aussi en Anatolie. Donc, selon Ido Koch de l'Université Tel Aviv, il pense en effet que l'arrivée des Philistins serait en lien avec la désintégration des empires hittites en Anatolie, dans la Turquie actuelle, et égyptiens, et peut-être aussi un accroissement d'activités de pirates et de mercenaires dans le monde égéen. Donc, il y a plusieurs raisons, et ça, c'est un des grands bouleversements qu'il faut en effet avoir en tête. Donc, pour Israël, ça signifie que lorsque la plupart des cités, des villes dans les vallées, dans les plaines du Proche récent vont se dépeupler, la zone montagneuse d'Éphraïm et de Juda va connaître un accroissement de population important. Donc l'idée, c'est que c'est peut-être lié à un certain déplacement des populations des villes vers les montagnes. Et dans la stèle de Mer Nebta, que je vous ai montré au dernier cours, bah Israël est en effet localisé probablement dans la montagne d'Éphraïm, en fait, hein, et évidemment présenté comme un groupe déjà assez important, puisque le pharaon le mentionne et se vante d'avoir mis fin à ce groupe de nom d'Israël. Donc, ce que nous avons dans la Bible, cette opposition Israël-Canaan, n'est pas une opposition ethnique. Il n'y a pas une ethnie cananéenne et il n'y a pas d'ethnie israélienne. Donc, ce que la Bible construit, c'est le peuple de Yahvé vis-à-vis des autres. On va construire l'autre. Mais il ne faut pas imaginer qu'il y a une ethnie cananéen qui serait différent. Après, il y a évidemment des marqueurs identitaires qui vont se développer et ce qu'on peut observer pour Israël, c'est dans la stèle de Mer Nebta, clairement une confédération clanique. Ce n'est pas considéré comme un pays, comme un État, parce que les dénominateurs qui expliquent que c'est un pays ou c'est une montagne, etc., pour Israël, quand on a Israël dans cette stèle de Mer Nebta, c'est trois traits, et ça montre en fait un groupe qu'on ne sait pas trop définir, mais qui n'est pas un pays. Donc, il ne s'agit pas encore de 12 tribus, ça c'est une construction plus récente, mais il peut y avoir plusieurs clans, plusieurs tribus qui se sont regroupées et la Bible garde quelques allusions, je pense, des longues mémoires à ça. Ce qui est intéressant, alors ça c'est assez compliqué à analyser, mais on observe quand même la zooarchéologie n'a pas trouvé beaucoup d'os de porc dans les régions où on imagine ce Israël. Donc il y a peut-être déjà une sorte de marqueur identitaire, ethnique d'une certaine manière, avec cette quasi-absence d'élevage de porc qui peut être expliquée de toutes sortes de manières, mais qu'on peut en effet constater. Donc, le récit de conquête ne reflète pas de réalité historique. Donc, il ne faut pas imaginer ça à la manière du livre de Josué. Donc, après, nous devons nous poser la question pourquoi on raconte cela de cette manière. Mais il peut y avoir eu des conflits d'ordre militaire entre les Apous, Apirous, les Chassous, les habitants un peu en marge de ces cités-états, avec les Roitelettes qui avaient perdu un peu leur influence et surtout la protection du pharaon. Donc Hatzor, c'est typiquement un cas où certains peuvent dire, oui, clairement, ça montre la conquête. Et d'autres disent, mais on n'a aucune idée qui a détruit, qui est responsable de l'effondrement de cette strate. Donc vous avez des archéologues qui disent, bah, c'est clairement lié là à la formation d'Israël, et d'autres vont dire, bah, ça peut être des Araméens, ça peut être n'importe qui. Donc c'est difficile de dire parce qu'il n'y a pas de textes qui ont été laissés, donc difficile à identifier. Mais on peut imaginer que certains textes de conflits militaires peuvent garder une sorte de mémoire collective, des traces de mémoire. Ce n'est pas impossible. Mais, et ça c'est important, en dehors du livre de Josué, il n'y a pas beaucoup de textes dans la Bible qui parlent d'une conquête. Donc c'est quand même assez limité au livre de Josué. Hein. Par exemple, Josué, d'ailleurs, je vous parlerai la semaine prochaine de l'historicité de Josué, avec un résultat aussi plutôt négatif. Donc la figure de Josué, elle n'est pas très très populaire dans l'ensemble de la Bible. Il est mentionné par exemple en 1 Chronique 7 avec son père, mais rien n'est dit en fait qu'il a mené une conquête. Et d'ailleurs Sarah Yafet, qui a fait un grand commentaire sur les chroniques, Sarah Yafet qui était professeure à Jérusalem, elle a dit, en fait, les chroniques mentionnent ni l'Exode, ni la conquête. Et si on lit les chroniques, on a l'impression qu'Israël a toujours été dans son pays. On n'a pas besoin ni d'Exode, ni de conquête. Et vous avez aussi un texte très intéressant que je voudrais vous lire, et puis écoutez bien. Dans 1 Samuel 12, on a cette idée, après que Jacob est venu en Égypte, vos pères ont crié vers Yahvé. Yahvé a envoyé Moïse et Aaron qui ont fait sortir vos pères d'Égypte et les ont fait habiter dans ce lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une tradition, que c'est Moïse et Aaron qui ont amené le peuple dans le pays. Et ça existe dans des traditions sur Moïse à l'extérieur de la Bible. Il y a des traditions de Moïse de l'époque hellénistique où c'est Moïse qui fait venir les Israélites dans le pays. Donc ça veut dire qu'il y avait différentes manières de raconter l'installation dans le pays. Et Josué, c'est une manière parmi d'autres, et ce n'est pas la seule manière canonique. Donc il y a différentes manières d'imaginer pourquoi Israël est dans le pays dans lequel il est. Donc, comment il faut imaginer maintenant? Maintenant, vient un moment un peu plus compliqué, donc restez réveillés si c'est possible. Donc, je vais vous parler de la formation du livre de Josué. Comment, en fait, on peut imaginer que le livre de Josué a vu le jour? Alors, d'abord, si vous regardez dans vos Bibles, comment on peut définir la place de Josué? Josué arrive quand? Il arrive après le Deutéronome. Et certains disent, ben en fait, il faut lire en effet Josué comme la fin de ce qu'il racontait avant. Donc la Torah, on l'appelle le Pentateuque, l'ensemble de cinq rouleaux. Et certains disent, ben enfin, on a plutôt un hexateuque, à savoir en fait un ensemble qui se termine avec l'histoire de Josué qui raconte en effet comment Israël s'est installé dans son pays. Et donc Josué en fait n'est pas le début d'autre chose, mais plutôt la fin de la Torah, l'hexateuque. C'est clair jusqu'à là? Bon, alors du coup, évidemment, on a essayé aussi de chercher les sources anciennes, le yaviste, le loïste, paix, ça c'était toujours un peu compliqué, mais bon, ça n'empêche pas. Alors, d'autres possibilités, si ce n'est pas l'hexateuque, c'est quoi? Alors, pour les fidèles des fidèles, ça vous rappelle peut-être quelque chose, Josué comme début d'une histoire qu'on avait qualifiée histoire deutéronomiste. Parce qu'on va observer, en effet, que Josué ouvre aussi une histoire qui va, en fait, à travers des livres de juges, de Samuel et de rois, jusqu'à la perte du pays. Donc on a une sorte d'encadrement, on a la prise de possession du pays, et à la fin du livre des rois, ben, on a la perte du pays. Et ça, c'est déjà dit, en effet, dans un des testaments de Josué, chapitre 23, il va dire, en effet, si vous ne faites pas ce qu'il faut, donc Yahvé va faire de sorte que vous disparaissez de cette bonne terre que vous a donnée Yahvé votre Dieu. Si vous transgressez l'alliance de Yahvé votre Dieu, alliance qu'il vous a ordonnée, et si vous allez servir d'autres dieux, etc. La colère de Yahvé, souvenez-vous de ce thème de la colère du Dieu, la colère de Yahvé va s'enflammer contre vous et vous allez disparaître rapidement du pays qu'il vous a donné. Donc là, ça prédit déjà ce qui va être raconté à la fin du livre des rois. Donc du coup, on peut lire en effet Josué comme l'ouverture d'une histoire qui va aller jusqu'à la fin des rois. Et donc, à cause de cela, Martin Haut avait inventé en 1943, en plein guerre mondiale, donc il était soldat, mais il était en arrêt maladie, donc il a écrit vite un livre sur l'histoire deutéronomiste. Et donc, son idée, c'est en effet de dire qu'il y avait un écrivain qui, après la destruction de Jérusalem, après l'exil, a en fait retravaillé les textes plus anciens en leur donnant une cohérence, en commençant avec le Deutéronome, puisque le Deutéronome prépare déjà le livre de Josué en annonçant la traversée du Jourdain, en installant Josué comme étant le successeur de Moïse. Donc en fait, le deutéronomiste aurait regroupé tous ces livres du Deutéronome jusqu'à Deux Rois, d'où histoire deutéronomiste, pour montrer en effet que l'exil n'est pas venu à cause de la faiblesse de Yahvé, mais parce que c'est Yahvé lui-même qui l'a provoqué pour sanctionner son peuple. Après, il a dit quand même aussi que le deutéronomiste n'invente pas beaucoup de choses, il reprend des traditions anciennes. Alors pour Josué, il disait en effet que Josué, surtout 2 à 9, les récits de conquête peuvent être assez anciens. Il a remarqué une chose très importante, à savoir que les villes qui sont conquises en 2 à 9, ou disons en 5 ou 6 à 9, se situent toutes dans le territoire de la tribu de Benjamin. Ça, c'est une bonne observation qui reste valable. Après, les conclusions qu'il en tire, c'est peut-être pas tout à fait aussi valable, mais donc l'idée, c'est qu'à l'origine, ça aurait été des traditions benjaminites sur l'installation de cette tribu dans son pays. Alors, se pose un problème, parce que Josué, il n'est pas benjaminite. Il vient d'Éphraïm, donc du nord. Donc du coup, Note a dit, mais Josué a été inséré après coup. Hein? Donc il avait vu quelque chose de juste autour de Benjamin. Il avait du mal, en fait, à expliquer pourquoi est-ce que Josué entre dans ce truc. Hein? Alors cette histoire deutéronomiste, pour Note, rédacteur, auteur, historien, comme il disait, on a un peu modifié les choses, surtout l'école américaine a juste titre vu qu'il y a des textes qui présupposent pas tellement l'exil, qui s'expliquent plutôt au moment où il y a une royauté en Juda, et donc on l'a souvent daté, en fait, à l'époque du roi Josias. Du côté de l'exégèse germanique, on aime bien les différents strates, et on a en effet insisté sur le fait que si on lit, et puis vous allez avoir des exemples, si on lit attentivement ces textes, c'est difficile d'avoir un seul rédacteur. Donc il y a plusieurs plusieurs deutéronomistes. Et donc on aura l'idée, en fait, d'une longue histoire qui commence au 7e siècle avant l'ère chrétienne et qui se poursuit au moins jusqu'à l'époque perse. Mais, comme beaucoup de théories, depuis deux, trois décennies, l'existence d'une histoire deutéronomiste est contestée. Donc il y a des gens qui disent, si on regarde les différents livres, ben, on se rend compte qu'il y a quand même des différences entre juges, entre Samuel, entre rois, est-ce que c'est le même rédacteur? Il y a des expressions deutéronomistes, mais c'est quand même plus compliqué. Et donc on dit, il faut revenir en fait à Josué comme fin de l'Hexateuque. Alors d'abord, c'est un faux Hexateuque, parce que la recherche récente, et ça c'est très important, prend au sérieux le fait que quand on parle de pays dans les histoires des patriarches, ça n'a rien à voir avec le discours sur le pays à partir de l'Exode. Parce que, comme je vous ai dit, chez les patriarches, ça se passe plutôt de manière pacifique. Et la première fois, on va en effet parler d'autres peuples qu'il faut chasser, c'est au moment de la vocation de Moïse. Donc là, Yahvé dit, je vais te donner, je vais te mener vers un bon et vaste pays, là où coule le lait, le miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périsite, du Hivite et du Jébusite. Donc tous les peuples qu'on va retrouver aussi dans les listes du livre de Josué. Et un peu plus loin, Exode 23, « J'enverrai ma terreur devant toi, je frapperai de panique tous les peuples parmi lesquels tu iras, et je ferai fuir devant toi tous les ennemis. » Donc là, en effet, l'idée, c'est que la conquête, ça va être vraiment une conquête. Les peuples vont être expulsés ou vont être massacrés. Donc là, c'est la préparation, en effet, des récits de conquête dans le livre de Josué. Mais du coup, c'est un faux Hexateuque. Si on prend Hexateuque à la lettre, ce n'est pas un ensemble de six. Ça commence avec l'Exode et ça passe assez vite au Josué. Donc l'idée, c'est qu'il y a un fil narratif qui va de l'Exode jusqu'à Josué. Et ça, c'est l'idée en fait qu'on va trouver dans le modèle d'Axel Knauf, qui pense en effet qu'au niveau littéraire, l'histoire de Josué commence au 7e siècle, où en fait, au 7e siècle, on va raconter la conquête de Benjamin, surtout, parce que Josias a voulu et a pu d'une certaine manière récupérer ce territoire qui était sous contrôle du Nord. Et puis, il trouve que la fin de cette histoire, c'est Josué bâtit tout le pays, et puis c'est la montagne, le Negev, le bas pays, les pentes, ainsi que le roi. En fait, si vous regardez ce qu'on dit à juste titre Knauf, tout le pays ici, c'est Juda Benjamin. C'est Juda Benjamin, ça correspond un peu à ce que c'est Juda à l'époque du roi Josias. Après, il y a une deuxième rédaction qui va faire un Israël de Dan à Beersheba, qui va élargir en fait l'étendue du pays conquis, donc avec une autre conclusion, en 11-23, Josué a pris tout le pays, selon tout ce que Yahvé avait dit à Moïse, et le donna en patrimoine à Israël, donc vous voyez, et le pays fut sans repos, sans guerre. C'est vrai que dans le livre de Josué, vous avez plusieurs versets. Vous avez l'impression que ça conclut en fait un rouleau. Et Knauf l'a très bien observé. Après, lui, il pense que les fameux textes sacerdotaux, le document P, est présent en Josué. Surtout, toute la communauté des fils d'Israël s'assembla à Shiloh et on y installa la tente de la rencontre. Le pays leur était soumis. Alors là, il dit, c'est magnifique parce que le pays leur était soumis. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Dans le premier chapitre de la Bible, il est dit quoi ? Soumettez-vous la terre. Et ce qu'on traduit par terre et pays, en fait, c'est le même nom, c'est Eretz. Donc, Knauf dit, c'est un magnifique encadrement. Donc, en Genèse 1, on dit soumettez-vous la terre. Et là, Israël va se soumettre le pays. Ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'en Genèse 1, on parle évidemment de l'ensemble de l'humanité. Et là, on parle du peuple d'Israël. Mais bon. Et puis, il y a d'autres rédactions que je ne vais pas maintenant discuter en détail. Donc, il imagine 7 ou 8 rédactions qui font après de Josué un livre indépendant, qui l'encadre avec les deux discours. Et puis, peut-être 2 rédactions très tardives, une qui fait le lien avec le livre de Juges, parce que dans le livre de Juges, on va répéter la mort de Josué. Hein? On a l'impression que le livre de Juges ne faisait peut-être pas encore partie de cet ensemble, et donc qu'on a rajouté cela. Et après, une rédaction qui fait en fait de Josué le début des Nevi'im, des livres prophétiques, avec, selon Knauf, une perspective un peu anti-samaritaine, puisque les Samaritains, comme vous le savez, n'ont pas gardé les Nevi'im, les prophètes. Alors, certaines théories sont plus osées que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est tout à fait compatible avec ce qu'on appelle parfois une bibliothèque deutéronomiste, parce qu'on peut très bien aussi imaginer que dans cette bibliothèque deutéronomiste, on avait en fait déjà le livre de l'Exode. Et à ce moment-là, cette opposition entre exatèque, faux exatèque et histoire deutéronomiste ne joue pas. Donc je pense, en effet, on peut imaginer des traditions anciennes, peut-être orales, mais surtout une première édition, et là, aujourd'hui, tout le monde est assez d'accord, une première édition écrite du livre au 7e siècle, à l'époque assyrienne, et je vous montrerai la semaine prochaine pourquoi c'est si clair. Hein, et puis ensuite, d'autres relectures après la destruction de Jérusalem, des interventions de type sacerdotal, peut-être une rédaction de l'Exateuque qui voudrait rattacher Josué au Pentateuque, et donc peut-être une rédaction du Pentateuque qui, en effet, montre que Josué ne fait plus partie de cela. Ça nous donnera en détail la semaine prochaine. Ce qu'on a aussi observé, et je vous parlerai aussi en détail la semaine prochaine, c'est qu'il y a certains liens entre Josué et Josias. Alors, ce n'est pas tout à fait le même nom, hein, c'est Yehoshua et Josia, mais, comme le dit Richard Nelson, peut-être on a quand même construit un peu Josué comme une sorte de prototype du roi Josias. Ce n'est pas du tout impossible. Et la semaine prochaine, je vais aussi vous montrer, je vous donne juste un exemple pour qu'on voit un texte, vous montrer comment en fait les textes assyriens dont Lionel va nous parler tout de suite après la pause ont influencé le livre de Josué. Donc c'est même, je vais le démontrer de manière plus précisément, c'est une sorte de reprise d'un discours assyrien pour le tourner un peu contre les Assyriens. Donc, je vous laisse un peu admirer cette image. Donc, qu'est-ce que vous voyez, en fait, dans... Attendez, après, on arrête. Ouais, ce que vous voyez ici, c'est quoi? C'est une sorte de disque ailé, comme si vous l'agrandissez, vous avez en fait une divinité. Alors, je ne sais pas, Lionel, c'est Assur, ou on ne sait pas qui ça peut être. C'est toujours pas facile de savoir, mais l'idée c'est que ce qu'on va appeler après Got mit uns, vous l'avez déjà chez les Assyriens. Donc en fait, c'est le dieu qui mène la guerre avec le roi, et le roi en fait, vous voyez, qui a le même geste en fait, qui a le même geste que la personne dans le disque. Donc la semaine prochaine, les liens avec la Syrie, et puis surtout l'installation de Josué comme chef de guerre et l'histoire des espions chez Madame Rahab. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais au moins, c'est le programme. Voilà, donc on va faire une petite pause et après, c'est livré.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.